Radio Capi, édition spéciale.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Nous entamons la dernière partie de cette édition spéciale sur la situation sécuritaire, toujours et encore instable dans les provinces du Kassai central et oriental. Il y a maintenant plus de 6 mois que cette partie du pays est en proie à l'insécurité. Des combats continus sont enregistrés entre milices des Kamuina-Nsapu et forces gouvernementales. Quelles sont réellement les origines de cette crise? Comment peut-on analyser la géopolitique de la zone? Quel est l'état des lieux de la situation actuellement au Kassai et quelles sont les pistes de solution pour pacifier cette zone? Tentative de réponse à ces questions au cours de cette édition spéciale que nous avons débutée depuis 9h, que vous propose d'ailleurs Radio Okapi en ce vendredi 7 avril 2017. Vos témoignages, vos analyses et vos réflexions ainsi que vos commentaires sont les bienvenus sur la page Facebook de Parole aux auditeurs ainsi que sur la page des plusieurs différents réseaux sociaux de Radio Okapi. Nous entamons, comme je l'ai dit, la dernière partie avec professeur Mbata qui est constitutionnaliste. Il est avec nous dans ce studio. Bonjour professeur. Nous sommes également avec Yvon Idoumou, chargé de communication à Ocha, qui est avec nous pour aussi nous brosser la situation humanitaire par rapport à cette question. Bonjour Yvon.
Bonjour.
Et nous avons eu le plaisir également de recevoir dans ce studio Denis Kambaï, ministre des sports honoraire de la République démocratique du Congo et aussi président du Grand Kassai. Bonjour Denis Kambaï.
Bonjour.
Alors d'entrée de jeu, nous recevons avec plaisir notre confrère Billy Yvon dans ce studio qui va nous faire un encadré sur la situation actuelle, l'état des lieux de la situation actuelle. On sait que la région du Grand Kassai est depuis bientôt 8 mois en proie à un véritable chaos qui l'a plongé dans une insécurité sans précédent, occasionnant mort d'homme et dégradation totale du tissu socio-économique et même humanitaire. Cette descente aux enfers du Grand Kassai est due, en tout cas, ou serait due, aux multiples attaques et combats entre les forces de l'ordre et une milice locale issue du mécontentement d'une communauté dans un problème de succession de pouvoir, comme vous venez de le suivre en début, à la première partie sur les origines de la crise et aussi en deuxième partie sur la géopolitique. Mais nous appelons Billy qui nous présente la situation actuelle. Bonjour Billy.
Bonjour JR. Au 31 mars 2017, le rapport de Ocha signale que 1,74 million de civils sont affectés par ces violences. Plus de 433 000 personnes sont déplacées à l'intérieur du pays et 49% dans la province du Kassai. La population dans les communautés d'accueil et les familles d'accueil où les personnes déplacées ont trouvé l'hospitalité représente environ 130 000 personnes. Et de plus, près de 202 000 personnes déplacées sont retournées dans leur zone d'accueil. Selon les rapports officiels, des affrontements violents et quotidiens opposant les milices aux forces de sécurité nationale ont causé la perte d'au moins 400 vies humaines et ont obligé 637 000 personnes à fuir leur foyer depuis août 2016. Ces chiffres vont croissant hier, d'autant plus que vendredi dernier, de nouvelles attaques sont survenues dans les territoires des Luebo, causant ainsi de nouveaux décès et de nouveaux déplacements des populations. La violence en cours hier exacerbe également les tensions entre les communautés identifiées comme favorables à la milice et celles perçues comme le parti du gouvernement. Ces tensions ont été une source supplémentaire de déplacements internes. JR, donc sur le plan humanitaire, les évaluations de terrain menées jusqu'à présent par les structures humanitaires, les agences humanitaires, dans certains des points chauds indiquent des besoins supérieurs au seuil d'intervention dans la majorité des secteurs, avec des préoccupations immédiates pour la vie en termes de protection, de santé, de sécurité alimentaire, de nutrition, d'abri et d'articles non alimentaires. JR.
Alors Billy, vous venez de peindre la situation humanitaire actuelle dans la région du Kassai. Qu'en est-il des droits humains dans cette partie du pays?
JR, ce n'est toujours pas reluisant. À en croire le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH, le nombre des fosses communes est passé de 7 à 23 fosses à ce jour. Le BCNUDH dit aussi avoir partagé ses chiffres avec le gouvernement. Il estime que la situation est très préoccupante dans cette partie du pays. Et selon le directeur de ce bureau, l'enquête en cours nécessite l'implication non seulement du gouvernement mais aussi de l'Union africaine et des autres organisations internationales afin de faire toute la lumière sur les tueries et de traduire les présumés auteurs en justice. Ces fosses communes JR ont été localisées dans les localités de Nkoto, Kaleya, Ngema et Chimbulu et aujourd'hui JR on parle du village Molumba Changi. Et pour finir, le territoire de Luebo par exemple dans la province du Kassai, il est toujours sous contrôle des envahisseurs qualifiés des rebelles par l'administrateur du territoire qui, je signale, n'est plus même dans ce territoire. Aucune structure n'est opérée opérationnelle là-bas, partant des institutions publiques jusqu'aux structures privées. Quelques habitants encore sur la cité de Lebo indiquent que les bâtiments publics et les édifices de l'église ne sont à présent que des ruines après avoir été identifiés par incendiés plutôt par les assaillants. Et d'autres à présent vivent dans les bosses ou dans les forêts. On vient d'ailleurs de l'apprendre, un directeur de l'école primaire Mwamono de Tchibala dans le territoire de Kazumba a succombé de ses blessures. Il a été copieusement tabassé mardi sur le tronçon Bilomba d'Ibataï par des présumés miliciens au motif qu'il détenait des manuels scolaires avec l'effigie de Joseph Kabila. Voilà un peu JR ce que nous pouvons dire sur la situation actuelle dans la province, dans la région du Kasaï.
Merci beaucoup Billy Yvon d'avoir fait de nous avoir présenté ces tableaux. Nous allons aussi faire des réflexions avec nos invités qui sont sur place dans ce studio. Je commence avec vous, Denis Kambayi, Grand Kasaï, mais on a l'impression que cette situation commence un peu à s'étendre partout, parce que les conséquences sont très 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 dures et très graves.
Je voudrais sincèrement dire merci à Radio Okapi qui nous a permis ce jour de nous rencontrer ici tous, même au téléphone, avec beaucoup de notables du Grand Kasaï qui ne se rencontraient presque plus, autour de cet événement, de ces événements malheureux. Merci Radio Okapi, parce que vous me permettez vraiment de communiquer sur la question. Avant toute chose, je voudrais, au nom de l'ASBL, parce que je ne parlais pas seulement à mon nom personnel, en tant que président du Grand Kasaï, présenter encore une fois de plus des sincères condoléances aux familles qui ont perdu les leurs, que ce soit au niveau de la population civile, la police et d'autres autorités locales. Et plus particulièrement à deux familles. Je regrette la mort de chef Sumbula, qui m'avait appelé il y a une semaine, quand cette affaire est arrivée à Kamako. Il m'a appelé président, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai dit, on a déjà déposé notre mémo au niveau du ministère de l'Intérieur. Et aussi, mon ami et frère, professeur Grégoire, qui vient de perdre son père de 77 ans.
Grégoire Bakandeja.
Grégoire Bakandeja. Professeur Greg Ngalamoulmé, professeur de l'ISDR, dont son papa a été tué par des miliciens, un papa de 77 ans. Sur la route de Sumbula, pour la simple fait que dans la documentation, en tant que directeur de l'école, il avait quelques documents qui étaient distribués à l'époque par le ministre Macaire, et dans ces documents, il y avait l'effigie du chef de l'État. Voilà des choses qui choquent, qui se passent au niveau du Kasaï. Après avoir présenté ces condoléances, nous disons que nous n'allons pas ici, au niveau de Radio Okapi, faire un tribunal populaire genre Gachacha, au Rwanda, et à tout ça, chercher à condamner qui est méchant, qui est mauvais. Nous sommes là pour chercher à trouver des solutions, parce que des vies humaines qui tombent chez nous, ça nous interpelle. Je vous informe, monsieur le journaliste, que je suis originaire de Dibaya moi-même, et dans le village de mon père, à Lubondaï, mon chef coutumier, et a quitté le village. Il est maintenant à Kananga dans l'appartement d'un oncle paternel à moi. Donc il a abandonné pratiquement le village parce qu'on va lui couper la tête. Et il y a dans le village de Bitanda chez ma mère, un des chefs coutumiers a été décapité. Tchendela a été décapité. Donc ça dit que c'est un problème qui nous touche au premier point. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons aller très rapidement, peut-être au moment du tour des tables, vous faire des propositions concrètes.
Alors, parce qu'il y a ce bilan qu'on nous a présenté, nous allons faire des propositions. Mais d'abord, je reviens à vous, Yvon, par rapport à ce que venait de présenter Billy Yvon, sur le bilan d'ailleurs de cette situation. Est-ce que vous confirmez ces bilans? Aujourd'hui, on est à combien des fosses communes?
Alors, moi je suis en tant que porte-parole de OCHA, qui est une agence humanitaire.
Et la situation humanitaire, voilà.
Voilà, donc je ne pourrais pas commenter sur les fosses communes, il y a le Bureau des droits de l'homme qui va le faire. Mais effectivement, les informations que votre confrère Billy a rapportées en tout début d'émission sortent d'un rapport que nous avons produit en début de semaine, où effectivement nous notons que plus d'un virgule 1 700 000 personnes avaient été affectées par la violence. Quand on parle de personnes affectées, on parle non seulement des personnes qui ont été directement victimes de ces violences, mais aussi toutes ces familles hôtes, ces familles qui accueillent des gens, parfois des personnes qu'elles connaissent parce que c'est la famille directe, parfois juste des individus simplement parce qu'ils sont congolais, donc elles accueillent chez elles. Et effectivement, il y a aussi ces familles qui subissent aussi une certaine conséquence de ces violences. Donc quand on parle de 1,7 million de personnes, c'est et les personnes déplacées et tous ceux qui sont affectés de façon indirecte. On a aussi effectivement, bien que le rapport note que près de 200 000 personnes ont pu, d'une manière ou d'une autre, regagner leur habitation, il faut quand même reconnaître que le grand nombre, près de 400 000, sont encore ne sont plus chez elles. Ce qui pose des problèmes à plusieurs niveaux, notamment pour les enfants en termes d'éducation, de scolarité. Ces familles étaient évidemment des familles commerçantes, agricultrices, et aujourd'hui elles ont perdu leurs moyens de subsistance. On a enregistré beaucoup de dégâts au niveau des centres de santé. Dans plusieurs localités aujourd'hui, ces structures de santé sont dépourvues de matelas, de médicaments, les frigos ont même disparu. Donc voilà, c'est une situation humanitaire qui est assez inquiétante. Et aujourd'hui,
oui, mais parce que quand vous parlez, disons à croire le rapport que vient de présenter Billy, Yvan, 1,5 million, c'est quand même une situation très alarmante. Quelle est l'intervention urgente actuellement là-bas sur place?
Mais l'intervention urgente, c'est de fournir, comme je disais tantôt, de fournir de l'eau, des médicaments, trouver un moyen pour que les enfants puissent ne pas, même si on n'est pas qu'en fin d'année, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont sûrement raté plusieurs mois de leur scolarité. Il faut nourrir ces gens, il faut les soigner, ces personnes soient... Alors ceux qui ont la chance effectivement d'être dans des familles d'accueil, on peut dire quelque part, elles sont entre guillemets bien logées, mais il faut savoir que des milliers de personnes sont sûrement...
Jusque là, il n'y a pas encore des sites d'accueil organisés par les humanitaires?
Non, on ne parle pas encore des sites d'accueil. Une des particularités de la situation humanitaire en RDC, c'est que, comme je disais tantôt, non seulement dans le Kassa, mais dans toutes les provinces de l'Est où il y a des personnes déplacées, il y a une très forte mobilisation locale, sociale. Donc, comme je disais tantôt, soit des personnes qui sont des parents proches des personnes déplacées, soit des Congolais qui, voilà, juste parce que ce sont des compatriotes, ouvrent leur cœur, ouvrent leur maison pour les abriter. Et ce sont dans ces conditions-là que les personnes, ces personnes habitent.
Voilà, la situation elle est très alarmante. Professeur Mbata, que doit-on faire? Parce que le bilan est là. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la gestion de cette crise, c'est vrai, nous avons posé la question tout à l'heure aux invités qui étaient à la première et à la deuxième partie, est-ce que ça passe conditionnellement par la restitution du corps de Kamuina Nsapu?
Merci beaucoup, Gérard. Je crois que je dois faire comme... mon collègue tout à l'heure s'est présenté mes condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées à la suite de ces conflits. Et la deuxième chose, c'est remercier Radio Okapi pour cette plateforme qu'elle offre. Parce que ce qui se passe au Kassai, c'est effectivement un problème national. Ce n'est pas un problème kassaïen. Plus de 4 provinces de la République sont affectées. C'est donc un problème national qui, à mon niveau, devait susciter même une réaction de l'Assemblée nationale. Il est curieux que l'Assemblée nationale ne fasse pas une session spéciale sur ce qui se passe dans le Kassai. Et il est aussi malheureux que les médias publics, comme la RTNC, mais c'est pour cela que nous disons merci à Radio Okapi, la RTNC, les médias publics devaient se saisir de cette question qui intéresse notre pays. Et je dois dire que ce qui se passe en réalité au Kassai, c'est une crise de l'état de droit. Et si vous lisez bien l'article 1er de la Constitution, la RDC, c'est un état de droit démocratique et social. On est ici dans un cas de crise. Crise de l'État, crise de l'état de droit, crise de la démocratie, crise de la gouvernance, que ce soit au niveau provincial ou que ce soit au niveau national, on est en plein dans une crise. Et vous savez, dans un état de droit, la souveraineté appartient au peuple. On ne dirige pas par défi un peuple. On ne dirige pas par des menaces. Lorsqu'il y a un problème surgit, on parle au peuple. On se met à l'écoute de la population. Un état de droit, c'est lorsqu'il y a des crimes qui sont commis, mais on les défère devant un tribunal. On ne réagit pas. L'État ne doit pas réagir à la violence par la violence. S'il y a des criminels, on devait les arrêter et les amener
aux tribunaux. Voilà donc un problème qui devient général et dans le pays, mais je dis que c'est une crise de l'état de droit, de la gouvernance au niveau provincial. On a mal géré cette affaire. Au niveau national, on a également mal géré cette affaire. Il faut parler à la population. Il faut se concerter avec la population quels sont ces déshydrates. Et on se rend compte effectivement que même au niveau local, un gouvernement provincial qui n'a pas bien géré cette affaire ne peut pas mener à la situation. Il y a un gouverneur qui était là à la base, qui est parti de la province. Je me demande pourquoi le gouvernement ne lui demande pas de rendre sa démission. Parce qu'il a failli. Et donc le gouvernement national doit penser à cela. C'est ici également qu'il faut féliciter peut-être l'approche dernièrement prise au niveau du ministère de l'Intérieur, aller dialoguer. Mmh. On n'envoie pas les militaires, ce n'est pas parce que Kamuina Sapou résiste qu'il faut aller les tuer. Et si vous êtes ministre de la sécurité, vous n'êtes pas seulement ministre de la sécurité des policiers, des militaires, mais aussi la sécurité des Kamuina Sapou et de tout le monde. Donc je crois que c'est un problème profond de gouvernance et qui nécessite toute l'attention de notre peuple. Il faut également ajouter dans un troisième point peut-être que la solution à ce problème, on a eu tous les détails avec les anciens gouverneurs qui sont passés, la solution ne peut pas être militaire. Non. La solution au problème, au phénomène Kamuina Sapou, elle n'est pas militaire, elle est politique. Et on ne résout pas le problème en créant une zone de défense et une zone opérationnelle après une zone de défense. Non. La solution n'est pas là. Et je constate même que... Donc, c'est vraiment... Il faut parler avec la population. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, je dis un État... C'est une crise de l'État social. Vous avez le Kasaï, on le dira pas assez, mais c'est une province, ce sont des provinces oubliées. Il n'y a rien à Kananga. Il n'y a pas d'électricité. Et même le barrage qu'on devait construire à Katende, posez la question... Mais le barrage n'est pas en train d'avancer.
L'Amiba qui était le poumon pratiquement L'Amiba du Grand Kassai, aujourd'hui nulle part.
Voilà. Oui, mais le Grand Kassai, mais c'est un territoire de chômeurs. Il n'y a pas d'emploi. C'est une zone abandonnée. On ne sait pas parce qu'ils n'ont pas voté pour une personne ou une autre. Mais le Kassai est abandonné.
Et selon le dernier rapport que nous avons également, le taux de l'exode rural aujourd'hui, le Kassai, beaucoup de jeunes ont abandonné le Kassai pour arriver à Kinshasa parce que ils vivent dans une précarité qui ne dit plus son nom, quoi.
Mais vous voyez avec tous ces transporteurs de motos qui ont envoyé Kinshasa. Mais quel est le résultat? Le Kassai n'a plus rien. Il n'y a pas de centres médicaux. Les écoles sont abandonnées. C'est une région abandonnée à elle-même. C'est ce qui explique que le phénomène s'étend et finalement ce sont tous les déçus pour compte du régime et qui s'en prennent aux oripeaux même du pouvoir. Mais on ne doit pas tolérer cela. Il faut tout condamner. Mais on essaie d'expliquer ce qu'il y a là. C'est une province abandonnée. Ce sont des provinces abandonnées. Et malheureusement, ceux qui font la politique ne s'y intéressent pas assez. On fait tout simplement du slogan, on fait de la propagande alors qu'une province est abandonnée.
Nous avons Denis Kambayi dans ce studio. C'est vrai, la solution n'est pas forcément militaire. Il faut dialoguer. Raison pour laquelle le ministre actuel, le vice-premier ministre de l'Intérieur, est allé dialoguer et il a promis dans les prochains jours de résoudre définitivement ces problèmes. Donc, passer des zones opérationnelles, pardon, des zones de défense à la zone opérationnelle. Quel est votre regard par rapport à ça? Parce que dans le discours du chef de l'État, le chef de l'État a précisé les choses pour régler cette solution. Vous pensez que de la zone de défense à la zone opérationnelle, ça pourrait amener une solution?
Tout à l'heure, quand je rencontrais Claudel en route ici, quand il sortait d'ici, j'ai dit que chacun devait garder sa ligne de défense. Je suis président d'une association. Je ne viens pas parler ici comme politique, député ou ministre. Au niveau du Grand Kassai, on a fait un travail. Ça fait 8 mois que ce travail, cet événement malheureux a surgi dans le Kassai depuis la mort du grand chef, Kamuina Sapou, le 12 août 2016. Nous avons fait un effort de rechercher une documentation que réclamait réellement le milicien ou les éléments de grand chef Kamuina Sapou. Nous sommes allés tomber sur un document. Nous sommes allés retomber un document signé Mouvement politico-coutumier Kamuina Sapou libérateur réel. Dans ce document, ils ont soulevé 5 points. Notamment, il réclamait la dépouille mortelle du grand chef Kamuina Sapou, comme premier point, pour organiser les funérailles dignes. Ils ont pensé d'enlever les barrières au niveau de tous les territoires, la libération des miliciens qui étaient aux arrêts, et ils ont condamné certaines tueries dans le Kassai. Mais là où, comme ça devenait déjà un mouvement politico-coutumier, parce que l'affaire a commencé, une affaire vraiment coutumière à 100%, qui est devenue un peu politique là-dedans, parce qu'on parle aussi de l'enseignement gratuit. Et ils exigent aussi le départ du gouverneur Alex Kandé. Voilà les cinq points qu'ils avaient soulevés, les amis qui sont au niveau local, et ils sont là.
Mais ils sont connus parce que les mouvements politiques, les personnes sont connues, comme on le disait tout à l'heure.
Ils sont connus, ils sont au nombre de cinq qui avaient signé ces documents. Mais quand nous sommes rencontrés le 1er février 2017, ici à Kinshasa, en tant que notable du Grand Kassai, nous étions une trentaine, nous avons fait un document à 10 points que nous avons présenté au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Nous, nous nous limitons à ces documents-là. Nous attendons que le gouvernement travaille
la vice-primature. Quels sont ces 10 points?
Les 10 points, nous avons demandé, nous, trentaine de notables du Grand Kassai, en rappeler le gouverneur de province à Kinshasa pour consultation comme mesure d'apaisement. 2, restituer le corps du grand chef à sa famille et organisation des obsèques dignes. 3, envoyer sur le terrain une commission de paix et réconciliation et organiser un barza communautaire à Kananga avec la participation des délégués venus de toutes les cinq provinces constituant le Grand Kassai. 4, alléger les dispositifs militaires des troupes combattantes au profit des forces de sécurité. 5, initier des actions humanitaires en faveur de populations locales sinistrées. 6, assurer l'encadrement et la promotion sociale de la jeunesse. 7, réhabiliter les infrastructures étatiques, scolaires et sanitaires, en plus de relancer les projets, notamment les cantonnages et les autres projets à caractère social. 8, remettre de l'ordre dans la gestion du pouvoir coutumier sur l'ensemble des territoires du Grand Kassai. 9, instruire les animateurs des institutions provinciales de s'abstenir des propos vexatoires et insultants dans la place publique. Et 10, libérer les sympathisants et des éléments du grand chef Kamwina Sapu encore en détention dans le cadre des mesures d'apaisement. Voilà ce que nous avons proposé comme 10 points et nous nous limitons à ça. Tout ce qui reste comme tribunal populaire, parce que là je dis, quand je suivais dans ma voiture, j'ai vu comme si c'était les gachacha à Kigali, où chaque tel accusait tel, tel accusait tel, tel. Non, voilà, ce n'est pas ça. Pour le moment, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'il faut que tout s'arrête. À propos de la question que vous avez posée sur la zone opérationnelle, la zone de défense dans l'espace du Grand Kassai, la zone en soi n'est pas mauvaise. Parce qu'ici à Kinshasa, nous sommes dans une zone opérationnelle qui est conduite par le général-major Amissi Kumbadi Tangofort, première zone de défense. Par rapport à ce qui se passe chez nous, parce qu'il y a le vrai élément de grand chef Kamwina Sapu, au regard de les réclamations que je venais de vous présenter ici, au regard de ce qu'a proposé le notable du Grand Kassai, mais il y a aussi d'autres éléments qui nous amènent à croire que non, il y a un autre phénomène qui va au-delà de ce qui a été le phénomène de revendication du grand chef Kamwina Sapu. Mais quant à cette zone de défense ou cette zone opérationnelle, avec des missions précises et les cantonnements contrôlés et suivis, parce que si on crée une zone de défense et il n'y a pas un bon suivi, il y a l'abandon. Vous savez que le Grand Kassai, c'est une zone minière. Le Grand Kassai, je sais de quoi je parle, c'est une zone minière. Il faut que, pas que ça se transforme comme à l'Est, où vous allez voir certains éléments de troupes risquent d'abandonner la mission principale pour laquelle ils sont partis là-bas.
Se
mettre dans les affaires. Donc, j'ai dit que la zone de défense, ce n'est pas une mauvaise chose, mais elle doit être contrôlée avec des missions précises. Mais je crois, avant même d'arriver même à cette zone de défense, si, au niveau du gouvernement, la vice-primature arrivait à exécuter vraiment en urgence les 10 points tels que nous l'avons recommandé, on ne pourra même pas arriver à tout ça. Et ces questions, vous pouvez trouver solution.
Alors, on va revenir au
point. Oui,
voilà, et puis, Yvan, mais le temps peut-être d'accueillir quelqu'un. Disons, il y a monsieur le ministre, Clément Kankou, qui est l'élu du Dibaya, le territoire du Dibaya. Il est ministre de la coopération internationale. Monsieur le ministre, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous hier.
Voilà, vous êtes élu du coin de territoire de Dibaya. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui faire des propositions pour qu'on arrive à mettre fin à cette crise?
Oui, hier d'abord je tiens à remercier Radio Capi pour l'organisation de ce cadre où chacun de nous peut dire ce qu'il pense pour trouver une solution à la crise. Mais je m'en voudrais de ne pas présenter d'abord mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un être cher à travers ces violences qui ont commencé depuis quelques mois. Je m'associe à leur douleur et par solidarité, comme élu du Kassai, originaire de Dibaya et mieux encore du Kamwina Sapu, je tiens à présenter ma compassion pour tout ce qui arrive. Je crois que je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit. Notre province est en proie à une spirale de violence sans précédent. Ce qui se passe chez nous, on ne l'a jamais vécu. Nous devons aujourd'hui prendre conscience de la gravité de la situation. Les gens meurent tous les jours. Il faut que nous, leaders politiques, nous, notables, prenions conscience de ce qui se passe chez nous. Il y a beaucoup de désinformation, d'intoxication, tout simplement à caractère à récupération politique. Je salue la présence du président du Grand Kassai qui a, avec nous, réfléchi sur les pistes de solutions. J'adhère aux 10 points qu'il a, il a présentés. Mais je crois que dans un premier temps, il faut continuer le processus qui a été amorcé avec la famille régnante. Répondre à leurs préoccupations, parce qu'ils ont présenté un cahier des charges. Ensuite, il faut aller à l'écoute de la population. Il faut écouter cette population. Cette population peut tomber dans la manipulation et se retrouver parfois à faire des actions qu'ils n'auraient pas dû mener. Je crois qu'il faut écouter les jeunes, il faut parler avec eux, il faut répondre à certaines préoccupations très rapidement, surtout à caractère social. Je pense qu'une action humanitaire de grande envergure aujourd'hui s'impose dans l'espace kassaïen parce que les gens ont perdu des êtres chers, les gens ont perdu des biens, les gens sont dans le désespoir. Je tiens à rappeler une chose, oui, j'ai fait partie de la délégation des députés que le gouvernement avait dépêché, donc le Premier ministre Matata, pour aller trouver une solution pacifique. Nous avons fait cette mission avec des députés de toutes, de tous les territoires. Malheureusement, notre mission a échoué parce que, de part et d'autre, aussi bien du côté gouvernement que du côté le grand chef, il y a eu une certaine rigidité et nous n'avons pas pu obtenir une issue pacifique. Dès que nous avons constaté notre échec, que les uns et les autres ont braqué sur leur position, nous avons rebroussé chemin, nous avons fait notre rapport à celui qui nous a envoyé et nous sommes rentrés à Kinshasa pour dire que voilà, nous avons échoué parce que nous avions engagé des discussions avec le chef Bandi qui avait présenté ses revendications, mais du côté gouvernement, il y a eu une position du côté gouvernement et nous sommes partis. Donc il faut que la vérité soit restituée à ce niveau-là. Chacun de nous un jour devra répondre de ses actes. Mais alors, pour le reste, je pense que comme le président Kamba il a dit, il faut penser à apporter une certaine intervention à caractère humanitaire, socio-humanitaire, parce qu'il faut penser au social de la population. Qu'est-ce qui fait que les jeunes tombent parfois dans ce genre d'égarement? C'est tout simplement parce qu'on trouve un terrain fertile où la société n'a pas répondu aux attentes de ces jeunes-là, aux attentes de la population. Mais le plus important que je pense, c'est que les notables, les élus, les leaders d'opinion se mettent autour d'une table pour dégager des pistes de solutions. Ça, on a déjà commencé à le faire. Le Grand Kassai l'a fait. Action Kassai l'a fait. Beaucoup d'organisations non gouvernementales l'ont fait. Je pense qu'il faut le faire. Quelques mesures de décrispation, quelques libérer quelques jeunes gens qui sont parfois manipulés, qui sont tombés dans ces pièges-là, d'autres qui sont innocents. C'est déjà un signe qu'on pourrait donner à d'autres. Et la réinsertion sociale de ceux qui ont accepté de déposer les armes, de ceux qui ont accepté d'enterrer la hache de guerre. Il faut qu'il y ait une réinsertion telle qu'on nous l'avons vu ailleurs pour permettre à ces jeunes gens d'avoir finalement des horizons meilleurs par rapport à leur avenir. Je crois qu'il faut mettre tout le monde ensemble, réfléchir ensemble, avoir une solution durable et ne pas tomber dans les pièges de la manipulation parce que malheureusement, depuis que cette affaire a commencé, il y a eu beaucoup de manipulations. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté alors que nous avons tout fait pour apporter une solution pacifique? Malheureusement, nous avons, je peux le dire, échoué à cette mission parce que de part et d'autre, là où on pouvait intervenir du côté gouvernement et du côté le chef Kamuna Sapu, il n'y a pas eu une réponse favorable pour qu'il puisse trouver un terrain d'entente. Malheureusement, ça échoue à ce niveau-là et nous avons fait d'autres rapports. Je crois que maintenant, il faut qu'on arrête de continuer à intoxiquer les gens. Il faut regarder de l'avant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution pour que notre population sorte de cette tragédie, de cette souffrance. Et il faut que les politiciens arrêtent de tirer les ficelles, que les politiciens comprennent que nous n'avons qu'une seule province. En allant dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous allons continuer à engager des violences chroniques et les gens seront toujours manipulés. On ne va pas trouver une solution. Je pense qu'une prise de conscience de chacun de nous et surtout penser à une résolution pacifique
solution, à mon avis, est le mieux indiqué quand elle est pacifique. On peut écouter les gens, on peut leur apporter des réponses à leurs revendications. Et surtout, je salue ce qu'on a déjà amorcé avec la famille régnante, qui a déjà donné un pied de charge, qui a donné des signaux positifs pour aller dans le sens du retour de la paix. Je salue aussi quelques miliciens que j'ai vus arriver déposer des armes. Je pense que c'est un exemple que d'autres pourraient suivre, parce que, quelles que soient les revendications, ce n'est que dans la voie pacifique qu'on peut trouver une solution.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous rappelons que vous êtes Clément Kankou, ministre de la coopération internationale et député national élu du territoire de Dibaya et surtout de la communauté Kamuina Sampo. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je crois que nous allons nous en tenir aux recommandations formulées par le Grand Kassai qui se constitue en 10 points. Donc on va les rappeler d'ailleurs avant à la fin de cette émission. Mais on revient à une fois qu'on merci, monsieur le ministre. À très bientôt. Voilà, on revient à vous, professeur Mbata. Conflit coutumier, mais on a l'impression aujourd'hui que le droit, en tout cas en matière moderne, en RDC, a du mal à pouvoir s'appliquer dans un régime coutumier.
Merci encore une fois.
Le mariage pose problème.
Oui, merci, Gérard. Je crois que c'est le jeu du
tout. Ça pourrait être une solution.
Oui, c'était un problème de crise d'état de droit. Et ce que vient de dire monsieur le ministre est carrément révélateur d'une chose. C'est ce que je disais, il y a une crise de gouvernance. Lorsque des membres du gouvernement, le gouvernement en place, lorsque des députés en place vous disent clairement nous avons échoué, c'est une crise. C'est un gouvernement qui a échoué à tous les niveaux. Et vous l'entendez, je crois que le ministre est revenu plusieurs fois. Nous avons échoué. Il faut se mettre à l'écoute de la population. Donc c'est un gouvernement qui ne se met pas à l'écoute de sa population. C'est très grave.
Mais les conflits coutumiers.
Alors, maintenant, revenant, je crois qu'il a révélé, même l'ancien ministre, le ministre Honoré Campbell l'a révélé. Il faut commencer par où? Qu'on libère. Il y a des prisonniers qu'on n'a pas jugés dans les prisons de Kananga. On parle ici de l'état des droits. Qu'on libère ces gens-là. Qu'on cesse avec ce qui se passe en Gaza, qu'on cesse avec ce qui se passe dans les communes, avec, où on tue les gens, qu'on cesse les violations des droits de l'homme. Donc, on n'a pas bien géré non plus le problème coutumier. Le problème, c'est lequel? On a voulu trop politiser les affaires coutumières. Et ça, c'est dans toute la République. Lorsqu'un chef coutumier n'est pas de votre obédience, vous voulez créer un capital qui est contre lui. On a commencé là.
Oui, mais maintenant qu'il y a une loi, donc je crois que dans les jours à venir, les problèmes ne se poseraient plus. Parce que là, aujourd'hui, le statut de l'autorité coutumière est connu, c'est bien disposé dans une loi qui a été promulguée par le chef de l'État. Donc il n'y aura plus de problème.
Mais la loi ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi cette affaire? La loi existe depuis longtemps sur les questions coutumières. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu l'affaire Kamuina Nsapu du temps du maréchal Mobutu? Il y avait une loi. La loi existe depuis longtemps. Mais comme toujours, on n'exécute pas la loi. On n'applique pas la loi. Prenons l'affaire de Kamuina Nsapu. Il devait être reconnu. Pourquoi est-ce qu'on a mis tant de temps à le reconnaître? Quel problème y avait-il?
Voilà. On n'a pas appliqué la loi. On va revenir à vous, professeur Mbata, et aussi à Denis Kambayi, pour les comptes des Grands Lacs, pardon, du Grand Kassai. Voilà. Donc, je pense à notre confrère, du Grand Lac. Alors, voilà. Et on va encore retrouver, monsieur le ministre, Évariste Bouchab, ministre honoraire, le vice-premier ministre honoraire, ministre de l'Intérieur. Voilà. Voilà. Vous êtes avec nous?
Oui.
Voilà. Là, il y a un mauvais retour parce qu'il y a une radio tout autour de vous là. Voilà. Est-ce que monsieur le ministre, pour qu'on arrive à mettre fin à cette crise, quelle doit être la solution?
La solution, elle a été proposée par plusieurs intervenants. Nous-mêmes, lorsque il y a eu par la suite l'attaque de l'aéroport de Kananga, nous sommes descendus sur place. Nous avons appelé les différentes communautés. Nous les avons écoutées, nous avions dialogué, nous avions appelé à la paix et nous avions invité la famille régnante à pouvoir faire le nécessaire, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Mais si je peux porter un rectificatif, tout à l'heure j'ai suivi que les mois d'Assemi, la gestion avait été meilleure, je n'en disconviens pas. Mais Nemanda Nsemi n'avait pas décapité les policiers. Nemanda Nsemi n'avait pas d'armes à travers la ville où on a commencé à s'attaquer aux paisibles citoyens. J'ai suivi mon collègue Mbata. Avec raison, il dit l'État ne réagit pas l'État ne réagit pas par la violence. L'État a des tribunaux. Mais je vais ici porter à votre connaissance que les policiers qui étaient partis pour ramener le chef Kamwe Nsapu à Kananga afin qu'il lui vienne exposer ses revendications, mais ces policiers-là, on a tiré sur eux et ils ont agi dans le cadre de la légitime défense. Il n'a jamais été question d'exécuter, de prendre une quelconque décision d'exécuter le chef Kamwe Nsapu. Mais simplement, le niveau où il était arrivé avec son mouvement était tel que non seulement qu'il refusait tout dialogue, mais aussi il s'est attaqué aux agents de l'ordre qui étaient partis simplement lui demander de pouvoir se présenter. On pose la question de savoir, et ça c'est Kasson Otulunde qui dit, et pourquoi le ministre n'a pas sorti l'arrêté. Mais le ministre ne peut pas sortir l'arrêté tant que le dossier ne lui est pas transmis. Le dossier commence au niveau du secteur, donc d'abord au niveau de la famille elle-même, la famille qui fait ses PV, on envoie au secteur, le secteur envoie au territoire, les territoires envoient au niveau de la province, jusqu'au jour où j'ai quitté le ministère, j'ai jamais eu un dossier, mais comment je pouvais prendre un arrêté? Et d'ailleurs là, le dossier ne pouvait pas parvenir directement à mon niveau, parce que c'est le ministre de la décentralisation qui s'occupait des affaires coutumières. C'est lui qui devait me transmettre le dossier. Mais lui-même ne pouvait pas me le transmettre parce qu'il ne l'avait jamais eu.
Voilà. Mais monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que les recommandations formulées par le Grand Kassai, notamment rappeler le gouverneur de province à Kinshasa pour consultation comme mesure d'apaisement, ça peut quand même être une des solutions aussi?
Mais le gouverneur a déjà été rappelé depuis plus de 3 semaines. Il se trouve ici en consultation. Il n'est pas à Kananga.
Alors, vous estimez, comme les autres, que l'urgence s'imposerait dans le cas, par exemple, des restitutions du corps du grand chef, dans un bref délai?
C'est un préalable. Tout à l'heure, je suis intervenu. Je vous ai dit que c'est un préalable. Et si le chef a été enterré par les autorités de l'État, et c'est pour la simple raison que la famille ne s'était pas présentée, et j'ai pris le chef Bols à témoin, puisque nous avions demandé que la famille se présente pour récupérer les corps, afin que les chefs soient enterrés, conformément au rituel coutumier. Voilà. Et donc, c'est un préalable. Il faut d'abord que les corps soient restitués et que l'on puisse faire toutes les cérémonies coutumières. Et ensuite, que les nouveaux chefs, plutôt la personne désignée par la coutume, son dossier soit transmis de manière urgente, aussi bien à la province et qu'un arrêté sorte. Mon collègue Bata a parlé tout à l'heure des problèmes sociaux, mais ils sont réels. Il faut quand même pas se voiler les visages. Voilà.
Voilà. Allez, il y a le 8e point des recommandations du Grand Kassai, la gestion du pouvoir coutumier. Vous estimez que la loi qui a été promulguée quant à ce est claire et que si jamais elle est appliquée, je crois qu'on n'aura plus ce genre de conflits.
La loi doit pouvoir s'appliquer et cette loi donne le pouvoir important aux chefs coutumiers eux-mêmes. Dans chaque province, le chef coutumier doit pouvoir résoudre les problèmes coutumiers. En ce sens-ci, que s'il y a 2 prétendants au trône, il appartient au chef de cette contrée qui connaissent la coutume de pouvoir trancher et de transmettre à l'État qui est le véritable méritant. Et donc, comme on a restitué ces pouvoirs aux gardiens de la coutume eux-mêmes, nous pensons qu'il s'agit là d'une avancée remarquable.
Tout à fait. Voilà. Alléger les dispositifs militaires des troupes combattantes au profit des forces de sécurité. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, c'est important que le Kassai devienne une zone opérationnelle?
Je ne suis pas le chef militaire. Je ne suis pas le responsable numéro 1 de la sécurité. Et lorsque, au niveau de l'armée, on estime qu'on doit pouvoir installer une zone opérationnelle, parce que plusieurs paramètres plaident pour cette solution, mais comment voulez-vous que, n'étant pas stratège en matière militaire, que je puisse dire la solution proposée n'est pas la bonne?
Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté et surtout d'avoir disponibilisé de votre temps pour répondre également à cette question dans cette édition.
S'il vous plaît.
Oui, allez-y, monsieur le ministre.
Tout à l'heure, mon collègue Loubaya a dit que j'avais procédé à l'intimidation. Que je me réserve le droit de pouvoir saisir les juridictions. Mais voilà. C'est manifesté mes propres droits parce que nous sommes voilà, dans un état de droit.
Voilà, c'est votre droit.
Et nullement une menace.
Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir surtout proposé des solutions par rapport à cette question. Anaclé de Kananga, il est dans la résolution des conflits. Il peut aussi nous donner quelques pistes. Anaclé, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes sur place à Kananga et vous travaillez sur la résolution des conflits. Est-ce que vous pensez que pensez-vous que c'est que venez de proposer en fait le Grand Kassai, ça pourrait être aussi une piste de solution et surtout lorsque on parle de d'organiser le Baraza au niveau du Kassai, ça pour finalement attendre vers un résultat.
En tout cas, je remercie tous les intervenants pour la qualité des analyses. Je voudrais d'abord présenter mes très sincères condoléances à tous ceux qui tombent tous les jours depuis le mois d'avril. Ça fait une année qu'il y a ce conflit. Et je remercie la Radio Okapi pour cette opportunité. Il y a crise de gouvernance à tous les niveaux. Et je sens même, quand vous appelez l'élite kassaïenne à discuter, il y a ceux qui sont dans leur rôle et loin même de s'ouvrir pour arriver à des solutions. Vous savez que tous les leaders qui sont là, ceux qui ont parlé, ils ont une base ici au Kassai. Et si deux d'entre eux ne s'accordent pas, les bases ne s'accordent pas. Je pense qu'ils doivent mettre de l'eau dans leur vin, notamment le professeur Evariste Bochab. Ce n'est pas le lieu où on va brandir le menace. C'est le lieu où on
voilà, est à la clé, si vous pouvez alors, aller directement, disons, aux solutions, parce que déjà, il y a une feuille de route proposée par le Grand Kassai. Je crois qu'il y a 10 points pour mettre d'accord tous les ressortissants du Kassai, notamment rappeler le gouverneur de province. Monsieur Varis Bochab nous l'a confirmé, que le gouverneur a été déjà rappelé. Restituer les corps du grand chef à sa famille. L'actuel ministre, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a promis à la famille. Envoyer sur le terrain une commission de paix et réconciliation et organiser un barza communautaire à Kananga, c'est ce que je sollicite que vous puissiez me donner des pistes. Alléger les dispositifs militaires des troupes combattantes au profit des forces de sécurité. Initier les actions humanitaires. Assurer l'encadrement et la promotion sociale de la jeunesse. Réhabiliter les infrastructures étatiques. Remettre de l'ordre dans la gestion du pouvoir coutumier. Instruire les animateurs des institutions provinciales de s'abstenir des propos vexatoires et insultants. Et libérer les sympathisants de Kamuina Sapu encore en détention, parce que ça fait partie des points de revendication des éléments de Kamuina Sapu.
Ok, merci. Tout a été ramassé, mais je voudrais qu'on aille en ordre. Parce qu'en regardant le paquet de recommandations, ce sont des millions qu'il faut mobiliser. Et la première des choses, c'est qu'on a identifié les problèmes. Il faut identifier les vrais acteurs, les vrais interlocuteurs avec qui parler. Qui aujourd'hui peut descendre sur le terrain aller parler aux gens? Ça, le problème. La première chose, c'est le problème est déjà identifié. Les acteurs clés, ceux avec qui il faut prendre langue, parce qu'aujourd'hui, il y a deux factions de milices sur la ville. Il y a ceux qui disent nous radicalisons parce qu'on n'a pas tenu compte de nous. Donc, il faut aller à les identifier comme ça et arriver à recueillir de nouvelles doléances, parce que ça change tous les jours, et tabler sur ça pour trouver des pistes de solutions. Tout ce qu'on a dit là, la panoplie de pistes, c'est vrai, mais il faut d'abord prendre langue avec le vrai acteur qui sont directement impliqués.
Merci beaucoup. Sinon, voilà, merci beaucoup.
Je voudrais, si vous permettez, c'est très intéressant, mais le temps n'y est pas.
Oui.
Je pense que par rapport à l'enlisement de la situation, je pense qu'il y a eu entêtement des décideurs institutionnels à tous les niveaux.
Voilà, il y a vos prédécesseurs qui ont déjà évoqué ça dans la première partie lorsque nous avons évoqué la question sur les origines et aussi la géopolitique. Voilà. Sinon, nous allons revenir en arrière à la clé.
Voilà, je crois que tous ceux qui ne se renferment pas dans le jeu de rôle quand ils viennent.
Voilà, merci beaucoup.
À la négociation, voilà.
Nous avons parlé aussi de la récupération politique. Les uns et les autres ont fait des propositions. Merci beaucoup à la clé. Je reviens à Yvon Idoumou. C'est vrai, là on se rend compte que la situation elle est très alarmante. Il faut une contingence humanitaire très conséquente.
Mais effectivement, aujourd'hui...
Et quels sont les besoins aujourd'hui, les besoins que les humanitaires ont pour résoudre cette crise humanitaire ou cette situation humanitaire?
Mais aujourd'hui, la situation est inquiétante et effectivement, le Kassai, cette crise est en train de se transformer en une nouvelle zone d'opération d'acteurs humanitaires. Dans le jargon humanitaire anglophone, on parle de hotspot, hein, qui traduit un peu un point chaud. Nous avons longtemps été concentrés dans l'est du pays, dans les Kivu, en Ituri, ces derniers temps avec le Tanganyika. Et aujourd'hui, la crise du Kasaï vient encore alourdir le travail. À ce moment, nous sommes en train de plusieurs agences.
Est-ce que vous avez déjà évalué les besoins actuellement?
Mais les besoins, il y a des missions. Nous avons, nous, au Tchad, nous avons des collègues qui sont en mission en ce moment sur le terrain. Et d'autres agences aussi, des Nations Unies, des ONG nationales et internationales. Ce sont des besoins, comme je disais tantôt, qui s'évaluent en termes de besoins primaires. Donc vraiment, les ressources, l'aide qui doit permettre aux gens de rester, on parle de simplement rester en vie, on parle d'eau, on parle de médicaments, on parle de nourriture, on parle de permettre à ces familles qui étaient dans l'agriculture de pouvoir quelque peu retrouver leur activité socio-économique. Donc il y a vraiment une aide d'urgence qui est conséquente, qui doit être mise en place.
Mais jusque-là, sur le terrain, il n'y a rien. C'est juste pour aller constater
Non, je pense, il ne faut pas dire qu'il n'y a rien, parce qu'on a peut-être tendance à souvent voir les grandes agences au
niveau. Mais qu'est-ce qu'il y a déjà fait pour gérer cette crise sur place, pour la crise humanitaire?
Beaucoup a été fait. Mmh. Peut-être pas en quantité comme peut-être on le souhaite, et pas aussi rapidement. Et effectivement, aujourd'hui, s'il y a peut-être une certaine lenteur, une certaine faiblesse dans la réponse, c'est parce que nous sommes en train de redéployer tout notre mode opératoire. Mm-hmm. Beaucoup d'agences, beaucoup d'acteurs humanitaires étaient basés dans l'Est, à Goma, dans les Kivu. Aujourd'hui, il faut redéployer et les moyens financiers et les ressources humaines sur le Kasaï, qui est une zone assez enclavée. Donc en termes de logistique, c'est un défi logistique. Il faut aussi savoir qu'effectivement, comme je disais tantôt, cette crise vient s'ajouter à une crise humanitaire qui date de plus de 20 ans dans les Kivu, dans le Tanganyika. Donc voilà, il y a une expansion géographique de la crise qui fait qu'elle nécessite beaucoup. On a besoin de moyens. Mm-hmm. Nous avons déjà reçu un peu plus de 4,5 millions de dollars du Fonds central de réponse d'urgence qui est basé à New York. Je peux vous le dire, même si ce n'est pas encore fait, que je sais que le coordinateur humanitaire, le docteur Mamadou Diallo, prévoit d'allouer un montant assez conséquent pour les acteurs humanitaires. Donc voilà, ça se met en marche. C'est pas parfait, mais au moins
vous avez commencé quelque part. Merci beaucoup. Exactement. Yvan. Alors, professeur Bata, je crois que tout à l'heure nous parlions de l'échec du gouvernement pour avoir géré cette problème, vous l'avez dit, mais je crois que c'était en réponse avec ce que disait tout à l'heure le ministre Clément Kankou, mais là je sais que il intervenait, il était dans la délégation, pas en tant que ministre, mais en tant que membre du Grand Kasaï,
comme député élu de Dibaya, quand ils ont accompagné le VPM, le professeur Boshab.
Donc il n'est pas allé comme membre du gouvernement?
Non, à l'époque il n'était pas comme membre du gouvernement.
Il est allé comme député national et élu de Dibaya. Exact. Mais voilà. Alors, donc, pour terminer, professeur Bata, c'est vrai, il y a 10 points qui constituent les recommandations formulées par les Grands Kasaï. Est-ce que vous avez un commentaire?
Bon, mais je crois que globalement, ce sont des bonnes recommandations, mais il y a d'autres qui sont faibles. On ne conseille pas aux autorités provinciales de cesser avec des discours de violence. On les sanctionne, s'il vous plaît. Le gouverneur, un gouverneur qui n'a pas bien géré, mais on ne le rappelle pas tout simplement. On le sanctionne. On pouvait lui demander de déposer sa démission comme on vient de demander au premier ministre Badibanga de le faire. Pourquoi on ne l'a pas fait? Ce sont des recommandations pour moi timides. Je crois que dès que le message sera fort, un, qu'on libère les prisonniers politiques, ils sont nombreux dans le cachot de Kananga et du Kasaï, qu'on libère les gens et ceux qui sont évidemment, qui sont reconnus responsables, on va le poursuivre. La même chose du côté des militaires. Parce que ce qui a été commis, quand on parle de fosses communes, mais il y a des crimes contre l'humanité. Il y a des crimes de guerre qu'on doit poursuivre. On a appris du Kasaï que des gens sont entassés dans des maisons, ils ont été tués, enfermés, on découvre subitement que des gens sont en train de pourrir. Donc on doit sanctionner et appliquer la loi. Donc on doit sanctionner les autorités. J'ai rappelé, il faut une autorité qui soit réconciliée avec la population. vous n'avez pas rappelé le gouverneur pour le renvoyer demain, parce que le rappel, ce n'est pas une sanction. Voilà. C'est-à-dire, on va le remettre.
Merci beaucoup.
Donc, il faut appliquer le droit, il faut appliquer la loi.
Voilà. Astrid Badia, députée élue également de Kazumba, vous êtes à nouveau avec nous, hein, rapidement. Qu'est-ce que vous avez constaté sur la gestion de cette crise et qu'est-ce que vous proposez comme piste de solution?
En fait, la gestion de ces dossiers qui nous a amené des conséquences dramatiques dans ma province est à condamner. Parce que nous pouvons, nous tous, reconnaître que la gestion de ces dossiers était très, très mal faite. Et que ces autorités qui avaient ces dossiers en main puissent reconnaître qu'ils ont très mal géré ces dossiers et que les sons de Kassaïens et a été versé à cause de ça. C'est ainsi que nous voulons que proposer quelques pistes de solutions et qui sont déjà annoncées par les prédécesseurs, mais je voulais insister, surtout organiser les dialogues francs et constructifs avec la famille régnante du grand chef Kamwelan Sapo, afin de leur permettre d'organiser les deux conformément aux us et coutumes de Bachar Kassam. Mmh. Ça, c'est un. De deux, libérer tous les éléments arrêtés de milices. Mmh. Et la mise en place d'un plan de réinsertion professionnelle dans les milieux affectés par les troubles.
Par les troubles. Merci beaucoup.
Nous aussi.
Oui, rapidement, parce qu'il
y a la désignation.
Oui.
Sans tarder de nouveaux animateurs pour gérer la province. D'autant plus que les anciennes autorités n'ont plus la confiance de la population.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Si on peut y mettre dehors, ça peut permettre que la population puisse se trouver en sécurité.
Voilà, merci beaucoup, honorable député Astrid Madia, élu de Kazumba, d'avoir proposé. Alors, message pour apaiser les jeunes et à ne pas se lancer dans ces mouvements. Voilà, message de paix, Denis Kambaye, en tant que président du Grand Kassaï.
Donc, dans les quelques secondes qui nous restent, je voudrais dire seulement aux professeurs que nous n'avons pas voulu faire un document sensationnel et émotionnel. Nous avons voulu faire un document réfléchi où toute personne intelligente comprend ce que nous sommes en train de dire. Vous avez vu qu'il y a 5 points proposés par la famille régnante, les éléments de Kamwelan Sapo. Ils ont parlé en termes clairs. Mais un homme intelligent aussi, quand on dit un gouverneur, quand il est rappelé ici en consultation, nous savons ce qui en découle au finish. Nous ne pouvons pas dire comme des combattants, le gouverneur doit être chassé. Non, je crois que il y a eu un débat entre plus d'une trentaine de notables. Il y avait des députés, des ministres, des professeurs d'université. Ce jour-là, j'ai la liste ici, une trentaine, voilà, des sénateurs même. Et voilà, nous avons conclu à ça. Pour nous, nous nous limitons à ces 10 points. Des personnes intelligentes pourront comprendre. Au niveau du gouvernement, je crois que le vice-premier ministre ne va pas nous contredire. Le message de paix que nous lançons, c'est ce que nous avons dit depuis le début de cette émission. Hein, je crois que tous les frères, il y a beaucoup avec qu'on ne rencontrait plus, mais grâce à Radio Okapi, nous sommes venus nous rencontrer ici avec d'autres téléphones.
Oui, pratiquement, nous avons
voilà, vraiment, toutes les tendances. Sincèrement, encore, félicitations et grand merci à Radio Okapi. Mais nous devons chercher la paix, nous tous en regardant dans la même direction, comme venait de le dire le ministre Kanko Bukasa, qui est de Kamwelan Sapo, que ce n'est plus le moment de dire qui a fait. Donc ça pourra se dire peut-être le jour du Barza intercommunautaire qui va être organisé à Kananga. Mais pour le moment, nous avons besoin que ce qui se passe à Kananga s'arrête. Ce qui se passe à Kananga actuellement, il faut que ça s'arrête. Et nous avons besoin d'interventions très rapides. Ocha a parlé, tout ça, les sociales, mais quelque part, ils n'ont pas encore amené quelque chose, pour être net, clair. Ils n'ont pas encore amené quelque chose.
Juste des interventions urgentes,
nous demanderons vraiment d'agir en urgence. Voilà. Et une fois qu'il y a la paix, nous, au niveau de l'iceberg Grand Kassaï, les notables du Grand Kassaï, nous allons lancer très rapidement une campagne de collecte de fonds et d'assistance pour les communautés au niveau local. Et nous allons nous appuyer sur nos frères qui ont des chaînes de télévision, radio et aussi radio.
Okapi
pour agir.
Voilà. Denis Kambaye, ministre des Sports, donc ministre honoraire, et également président du Grand Kassaï. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Mbata, constitutionnaliste, vous avez également fait plaisir à cette édition spéciale de votre présence. Yvon Idomo pour Ocha, merci aussi. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition spéciale sur la situation sécuritaire au Kassaï. Merci à toute l'équipe qui a concouru à sa réalisation. Je vois André Mongou qui était à la mise en onde, Pierrot et la Mégie, Nico au Kalambay, Onésime Moukandila, Junior Richard Kamunga et Billy Ivan ont tous concouru pour sa production. À vous tous, merci et à très bientôt pour un autre numéro.
L'émission Parole aux auditeurs que vous venez de suivre était une rediffusion.